Émile Zola, le docteur Pascal. À la mémoire de ma mère et à ma chère femme, je dédie ce roman, qui est le résumé et la conclusion de toute mon œuvre. Chapitre 1. Dans la chaleur de l'ardente après-midi de juillet, la salle, aux volets soigneusement clos, était pleine d'un grand calme. Il ne venait, des trois fenêtres, que de minces flèches de lumière par les fentes des vieilles boiseries. Et c'était, au milieu de l'ombre, une clarté très douce, baignant les objets d'une lueur diffuse et tendre. Il faisait là relativement frais, dans l'écrasement torride qu'on sentait au dehors, sous le coup de soleil qui incendiait la façade. Debout devant l'armoire, en face des fenêtres, le docteur Pascal cherchait une note qu'il était venu prendre. Grande ouverte, cette immense armoire de chêne sculptée, aux fortes et belles ferrures, datant du dernier siècle, montrait sur ses planches, dans la profondeur de ses flancs, un amas extraordinaire de papiers, de dossiers, de manuscrits, s'entassant, débordant, pêle-mêle. Il y avait plus de 30 ans que le docteur y jetait toutes les pages qu'il écrivait, depuis les notes brèves jusqu'au texte complet, ses grands travaux sur l'hérédité. Aussi, les recherches n'y étaient-elles pas toujours faciles. Plein de patience, il fouillait, et il eut un sourire quand il trouva enfin. Un instant encore, il demeura près de l'armoire, lisant la note sous un rayon doré qui tombait de la fenêtre du milieu. Lui-même, dans cette clarté d'aube, apparaissait, avec sa barbe et ses cheveux de neige, d'une solidité vigoureuse, bien qu'il approchât de la 60aine. La face si fraîche, les traits si fins, les yeux restés limpides, d'une telle enfance qu'on l'aurait pris, serré dans son veston de velours marron, pour un jeune homme aux boucles poudrées. « Tiens, Clotilde, finit-il par dire, tu recopieras cette note. Jamais Ramon ne déchiffrerait ma satanée écriture. » Et il vint poser le papier près de la jeune fille qui travaillait debout devant un haut pupitre dans l'embrasure de la fenêtre de droite. « Bien, maître, » répondit-elle. Elle ne s'était pas même retournée, tout entière au pastel qu'elle sabrait en ce moment de larges coups de crayon. Près d'elle, dans un vase, fleurissait une tige de rose trémière, d'un violet singulier, zébré de jaune. Mais on voyait nettement le profil de sa petite tête ronde, aux cheveux blonds et coupés courts. Un exquis et sérieux profil, le front droit, plissé par l'attention, l'œil bleu ciel, le nez fin, le menton ferme. Sa nuque penchée avait surtout une adorable jeunesse, d'une fraîcheur de lait, sous l'or des frisures folles. Dans sa longue blouse noire, elle était très grande. La taille mince, la gorge menue, le corps souple, de cette souplesse allongée des divines figures de la Renaissance. Malgré ses 25 ans, elle restait enfantine et en paraissait à peine 18. « Et, reprit le docteur, « tu remettras un peu d'ordre dans l'armoire. On ne s'y retrouve plus. »« Bien, maître, » répéta-t-elle sans lever la tête. « Tout à l'heure. » Pascal était revenu s'asseoir à son bureau, à l'autre bout de la salle, devant la fenêtre de gauche. C'était une simple table de bois noir, encombrée, elle aussi, de papiers, de brochures, de toutes sortes. Et le silence retomba. cette grande paix à demi obscure dans l'écrasante chaleur du dehors. La vaste pièce, longue d'une dizaine de mètres, large de 6, n'avait d'autres meubles, avec l'armoire, que deux corps de bibliothèque bondés de livres. Des chaises et des fauteuils antiques traînaient à la débandade, tandis que, pour tout ornement, le long des murs, tapissés d'un ancien papier de salon empire, à rosace, se trouvaient cloués des pastels de fleurs, aux colorations étranges qu'on distinguait mal. Les boiseries des trois portes, à double battant, celle de l'entrée sur le palier, et les deux autres, celle de la chambre du docteur et celle de la chambre de la jeune fille, aux deux extrémités de la pièce, dataient de Louis XV, ainsi que la corniche du plafond enfumé. Une heure se passa, sans un bruit, sans un souffle. Puis, comme Pascal, par distraction à son travail, venait de rompre la bande d'un journal oublié sur sa table, le temps, il eut une légère exclamation. « Tiens, ton père qui est nommé directeur de l'Époque, le journal républicain à grand succès, où l'on publie les papiers des Tuileries. » Cette nouvelle devait être pour lui inattendue, car il riait d'un bon rire, à la fois satisfait et attristé. Et à demi-voix, il continuait. « Ma parole, on inventerait les choses qu'elles seraient moins belles. La vie est extraordinaire. Il y a là un article très intéressant. » Clotilde n'avait pas répondu, comme à 100 lieues de ce que disait son oncle. Et il ne parla plus. Il prit les ciseaux, après avoir lu l'article, le découpa, le colla sur une feuille de papier, où il l'annota de sa grosse écriture irrégulière. Puis, il revint vers l'armoire pour y classer cette note nouvelle. Mais il dut prendre une chaise. La planche du haut était si haute qu'il ne pouvait l'atteindre, malgré sa grande taille. Sur cette planche élevée, toute une série d'énormes dossiers s'alignaient en bon ordre, classés méthodiquement. C'étaient des documents divers, feuilles manuscrites, pièces sur papier timbré, articles de journaux découpés, réunis dans des chemises de fort papier bleu, qui chacune portait un nom écrit en gros caractères. On sentait ces documents tenus à jour avec tendresse, repris sans cesse et remis soigneusement en place.